Urbanisme transitoire, quels impacts ?
Une émission proposée par Immobel France sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Urbanisme transitoire, quels impacts, proposée par Immobel France, une émission dans laquelle nous allons découvrir et discuter de la réhabilitation des magasins Tati, grand magasin parisien emblématique situé dans le 18e arrondissement. Pour cette émission, je reçois 4 intervenants. Alors tout d'abord à ma droite, Marion Vallet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de projet pour Immobel France. Une petite présentation rapide d'Immobel France peut-être.
Oui, en quelques mots, donc Immobel est le grand promoteur immobilier belge, donc coté en bourse. Le groupe a été fondé en Belgique et est depuis présent dans plusieurs pays européens, dont la France, où nous intervenons à Paris et en région parisienne.
À ma gauche, Laurent Bandet, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de Forest. Qu'est-ce que Forest ?
Nous sommes une agence où on fait de l'immobilier temporaire, enfin transitoire.
Urbaniste transitoire, justement, voilà, le thème de l'émission. Transitoire. Youssouf Fofana, fondateur de Maison Château Rouge et fondateur aussi des Oiseaux Migrateurs. Alors, pouvez-vous nous présenter ces deux, une association et c'est puis ça. Une entreprise, c'est ça ?
C'est ça, une association et une marque.
Ouais.
Les Oiseaux Migrateurs, c'est une marque les Oiseaux Migrateurs, c'est une association qui a été fondée avec mon frère. Mamadou Fofana.
Donc cofondateur, hein,
co-fondateur,
vous avez cofondé tous
exactement.
Les deux en famille.
Et l'objectif de cette association, c'est participer de manière collaborative au développement de TPE-PME sur le continent africain et de créer tout un écosystème de commerçants et d'artisans dans le quartier, dans le 18e arrondissement, en travaillant avec la diaspora africaine de Paris. Et ensuite, donc, pour financer cette association, on a lancé une marque de vêtements qui s'appelle Maison Château Rouge, qui est une marque qui s'inspire du quartier qui porte le même nom dans le 18e arrondissement de Paris et qui vise à mettre en avant la richesse culturelle qu'on retrouve dans le 18e arrondissement.
Donc une belle association et une belle marque.
Merci.
Et puis Emmanuel Lallemand est là également, ethnologue, mais pas que. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, je suis effectivement ethnologue. Je me suis intéressée depuis de nombreuses années au quartier Barbès, donc au magasin Tati. Et par ailleurs, je suis professeure des universités à Paris 8, où je m'occupe notamment d'un master qui s'appelle Urbanisme, Aménagement et Dynamique Sociale, dans lequel la question de l'urbanisme transitoire est au cœur de notre formation.
Eh bien voilà, on est au complet, on va pouvoir y aller. L'émission Urbanisme transitoire, quels impacts ? C'est maintenant.
Urbanisme transitoire, quels impacts ?
Alors, on a parlé de beaucoup de choses, là. Il y a eu beaucoup de mots forts. Hein. On a parlé d'impact, d'urbanisme transitoire, d'association. On va resituer déjà, peut-être avec vous, Marion. Vous allez déjà nous présenter ce projet donc mené par Immobel France. Quel est ce projet ? Comment ça s'est passé au commencement ?
Oui, alors l'histoire pour nous a commencé en 2021, même si l'histoire donc des anciens magasins Tati commence bien avant et Emmanuel pourra nous en parler. Mais donc pour nous, ça a commencé en 2021 avec un appel à projet, Réinventer Paris 3, qui a été organisé par la ville de Paris. Et l'enjeu était multiple. Donc c'est un projet de transformation urbaine où il s'agissait donc de créer du logement, de repenser la façon de faire des bureaux et de favoriser aussi la mixité urbaine dans nos projets.
Donc la mixité urbaine, qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez dit, c'est logement, bureau,
oui,
commerce.
Oui, c'est de venir en fait mixer les usages. Mm. Et c'est vrai que l'enjeu en particulier sur ce projet, c'est aussi de composer avec un existant qu'il faut préserver au maximum, puisque donc c'est vraiment un enjeu pour nous de pouvoir respecter le bâti, son histoire, et mais de faire cette préservation du bâti tout en le faisant évoluer vers des usages qui vont être différents de ceux pour lesquels il avait été conçu initialement. Et ces futurs usages, donc nous, on les imagine multiples avec du logement, du bureau, du commerce, une résidence hôtelière et un futur espace, espace culturel.
Donc j'imagine que c'est pour répondre à une demande forte, justement.
Oui, mais alors c'est vrai que nous, la conception des projets, on les fait en essayant de répondre aux besoins et aux attentes des personnes et au sens large, au sens des personnes qui ont vécu le passé du lieu, qui vont vivre le présent donc du projet et notamment avec l'urbanisme transitoire et bien sûr qui seront amenés à vivre, à travailler, à se divertir dans le projet pérenne.
Donc le bâtiment, vous l'avez acheté,
tout racheté. À fait.
La date de livraison, elle est prévue pour quand ?
Ça reste prévisionnel, mais on imagine aujourd'hui fin 2024.
Alors, on connaît, hein, sur Radio Immo, on connaît les problématiques actuelles, hein, les délais d'approvisionnement, la crise énergétique, la crise des matériaux. Donc, on sait que c'est pas évident, mais en tout cas, 2024, c'est ce qui se dit pour l'instant. Alors, justement, là, vous avez évoqué l'urbanisme transitoire. C'est un choix également de la part d'Immobel.
Oui.
Pourquoi ?
Alors, déjà, il y a un contexte qui est le contexte de la réhabilitation qui permet ce type de projet. Et c'est vrai que, enfin, moi, je ne verrais pas le sens de garder un bâtiment vide, sachant qu'on peut y faire des choses très intéressantes.
Et vous l'avez dit, c'est un quartier magnifique, avec des personnes, avec beaucoup de personnes et une demande aussi très forte.
Oui. On le verra quand on parlera effectivement du projet d'urbanisme transitoire, mais effectivement on se rend compte que le bâtiment avec il a une histoire, mais il a des histoires parce que toutes les personnes qu'on rencontre ils ont un passé avec Barbès, ils ont un passé avec les anciens magasins Tati, et c'est vraiment intéressant pour nous de dialoguer avec ces personnes et de pouvoir amorcer cette discussion très en amont du projet, très en amont du démarrage des travaux. Et du coup, pour nous, l'impact positif qu'on a, qu'on a collectivement, il démarre finalement très en amont de nos projets si on ne faisait pas cet urbanisme transitoire.
Et alors justement, quand vous dites collaboration,
oui.
Comment Forest, Maison Château Rouge et les oiseaux migrateurs se sont joints à vous pour ce beau projet ?
Ça s'est fait très très en amont. Je dirais que nous, en plus, on avait déjà eu la chance de pouvoir travailler.
Oui, vous connaissiez déjà
Forest, voilà. Et Forest s'est fait un peu le trait d'union entre nous tous. Et donc c'est ça qui est intéressant. C'est finalement l'alignement qu'on trouve entre un lieu qui est disponible, entre l'expertise donc de quelqu'un qui en connaît les besoins, qui en connaît l'histoire, qui arrive à comprendre aussi ce qu'on a envie d'y faire dans le futur, et un projet qui va permettre de rendre tout ça cohérent, ne serait-ce que pendant une phase temporaire. Mmh. Et donc pour nous, ça a été les magasins Tati, grâce à Forest et avec le formidable projet que Youssouf a imaginé pour le lieu.
Donc la compréhension de ce que vous voulez en faire dans le futur, ça c'est très important et je pense que c'est ça qui vous a réuni. Laurent Bandet, donc fondateur de Forest, cofondateur de Forest, justement, pouvez-vous nous parler un peu plus en détail puisque vous êtes spécialiste de l'urbanisme transitoire. Alors l'urbanisme transitoire, on entend de plus en plus ce mot, hein, c'est en train de se démocratiser encore plus dans le contexte actuel avec les nouvelles lois, notamment la loi ZAN, hein, la zéro artificialisation nette, on n'a plus le droit de construire, de s'étendre. Donc voilà, on en parle de plus en plus de ce type de projet. Forest, c'est un acteur engagé. Vous allez nous expliquer pourquoi vous faites de l'immobilier à impact. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste ?
En fait, on réfléchit à la vie, ce que sera un peu la ville de demain ou ce que sera le projet, en fait. C'est-à-dire que quand Immobel nous a appelés sur ce magasin de Tati, on avait besoin de comprendre aussi ce qu'allait devenir, ce qu'allait être le projet futur. Et en fait, on appelle ça la préfiguration. Et en fait, l'immobilier temporaire permet en fait d'amorcer en fait le futur projet.
Donc amorcer comment quand vous dites amorcer, c'est comment ?
C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il y a dans le futur projet un lieu culturel. Et après, je vais expliquer un petit peu plus comment je suis arrivé à Youssouf, mais pour nous, c'était quelque chose qui allait unir aussi dans le quartier et dans ce futur bâtiment. Donc, c'était vraiment un point important à mettre en avant.
C'est vrai que l'humain, c'est très important pour vous.
Oui.
On a l'impression que c'est vraiment votre leitmotiv, c'est vraiment c'est ce qui donne du sens à ce que vous faites.
Oui, on travaille avec les gens qu'on aime bien aussi. Ouais.
Ouais. Mais en tout cas c'est beau de voir ça, hein, parce que nous on en voit passer des professionnels et c'est rare de voir autant de passion et de motivation en tout cas chez des acteurs d'être aussi engagés, c'est rare. Alors vous avez une casquette dans le secteur de la culture.
Oui, en fait j'ai une autre agence qui s'appelle Petit Ami où je fais de la production d'événements dans le milieu de la mode et de l'art. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Youssouf, en fait, qu'on a...
Donc via Petit Ami.
Via Petit Ami, où on a commencé à construire un lien il y a à peu près deux ans de ça.
Ouais. Sur un autre projet,
Sur d'autres projets. Et c'est ce qui nous permet actuellement aussi de rayonner dans ces milieux-là.
Bien sûr.
Et d'avoir un...
De se faire connaître, en fait.
Une famille un peu aussi, et de connaître des talents comme ça pour des projets. Et donc, oui, c'est vrai que c'était... quand il y a eu ce projet, qu'on nous a proposé ce projet sur Tati.
C'est vous qui avez immédiatement pensé à Youssouf, en fait ?
En fait, oui. Pourquoi ? Parce que Tati, c'était du textile. Donc, on s'était dit, un acteur qui travaille le textile, c'est vachement important. Quelqu'un qui est impliqué dans le quartier. Pour le projet futur aussi, c'est important. Qui a une connaissance aussi, qui soit complètement détaché, comment dire ça ? Parce que Youssouf, il a quand même pas mal d'actions aussi dans le 18e, et surtout à Château-Rouge. Donc on avait, je trouve que beaucoup de choses s'alignaient, quoi. Et puis, ça faisait longtemps qu'on se connaissait, c'est devenu un ami, et il y avait aussi cette relation de confiance. Et, parce que c'est vrai qu'on est sur des périodes très courtes, il faut aller assez vite,
En fait, il faut qu'on se comprenne, c'est ça ?
Qu'on se comprenne, qu'on se dise, on va avoir... des activations qui vont plaire aussi à pas mal de gens.
Et ça, d'être amis dans la vraie vie, alors je m'adresse à tous les deux, d'être amis dans la vraie vie, non mais ça aide pour ce genre de projet. On va plus vite, on est plus efficace quand on s'entend bien personnellement.
Il y a la confiance, comme Laurent vient de le dire, et c'est sûr que la confiance, ça aide beaucoup et ça permet d'aller beaucoup plus vite, parce qu'autrement, on passe beaucoup de temps, je pense, à déjà essayer de se comprendre, de savoir comment chacun aussi, quel est le langage de chacun. Et là, l'avantage, c'est qu'on se comprenait, Laurent sait aussi quel est un peu notre... Enfin, quels sont mes goûts, comment j'allais... je pense qu'il avait une vision aussi de qu'est-ce qui allait être le lieu s'il nous le confiait. Et ça nous a permis de gagner du temps parce qu'il nous a fait entièrement confiance. Et ça, je vous remercie pour ça. Et pour nous, c'est une super opportunité parce que justement, le fait que ce soit sur de l'éphémère, je pense que pour beaucoup, ça peut être une contrainte. Mais pour nous, c'est génial de pouvoir avoir ce lieu de façon temporaire pour pouvoir tester et pouvoir essayer des choses, voir aussi les usages, voir comment les gens réagissent, pouvoir ajuster parce qu'on a aussi la chance d'être une petite équipe, donc d'être très flexible, et on peut se permettre, nous, de changer si quelque chose ne fonctionne pas et d'adapter le lieu au fur et à mesure.
Alors, vous l'avez dit, petite équipe, mais j'imagine que vous êtes très réactif, puisque
très réactif.
Vous l'avez dit aussi, c'est éphémère, donc il faut aller très vite, en fait. On n'a pas le temps, en fait. Donc, comment vous faites ça ? Comment vous vous organisez en interne ?
Comment j'ai commencé, déjà, moi, Maison Château-Rouge et les oiseaux migrateurs, ça a toujours été très instinctif et ça a jamais été des... j'ai jamais fait de business plan pour lancer une entreprise parce que j'ai toujours...
C'était au feeling
et c'était surtout comme si j'étais convaincu qu'il y avait une mission pour laquelle il fallait faire quelque chose et donc il fallait le faire sans trop se poser de questions. Et ensuite, après, une fois que c'est passé, on fait le bilan et on voit ce qui a marché et ce qui n'a pas fonctionné. Et je pense qu'il fallait aussi penser comme ça, c'est que instinctivement et par instinct, en fait, on avait l'impression de comprendre ce qu'il fallait, ce qui manquait dans le quartier et ce que les gens attendaient. Parce que le fait d'avoir... On a une boutique aussi qui est située à Rue Mira, où on a énormément de clients qui...
Donc, c'est pas très loin, Rue Mira.
Très loin, c'est à 5 minutes. Où on a beaucoup de clients qui viennent du 18e, du 9e, donc des alentours, et avec qui on discute énormément et dont on a souvent recueilli des témoignages ou un peu quels étaient leurs besoins. Et de là, en fait, cette équipement culturel, même s'il est transitoire. En fait, on était conscient que c'était un besoin et aussi les gens avaient besoin d'un lieu qui rassemble et qui fédère un peu toutes les populations qu'on retrouve dans le quartier et que ce soit pas quelque chose d'excluant. Et ça, c'était un point qui était hyper important pour nous. Et c'est aussi pour ça que Laurent, donc avec et Forest, donc et Immobel, donc on fait appel à nous parce que on a eu la capacité avec nos différents projets à fédérer et rassembler des publics très différents. Et ça, c'était un point qui était hyper important et qu'on arrive aujourd'hui à faire avec ce projet.
Marion, juste, j'aimerais avoir votre avis. Ça vous a tout de suite sauté aux yeux, cette amitié et ce lien qu'il y avait entre Laurent et Youssouf. Et comment vous avez perçu la chose ?
En fait, on le voit au quotidien, je pense, dans les projets. La fluidité des échanges, la réactivité, l'implication des équipes.
De chacun.
Voilà, enfin c'est... Même le lieu, en fait, finalement, c'est le lieu où on se retrouve aussi.
C'est ça, exactement.
Ça fait corps, en fait. Ça fait corps.
Youssouf, est-ce qu'on peut parler de la programmation plus en détail ? Alors, cette programmation, qui l'a choisie ? Qui décide ? Comment ça se passe ? Et quel genre d'événements ont lieu ? Comment ça se passe à l'intérieur ?
Comment ça se passe à l'intérieur ? On a une équipe, on est 5 personnes. Enfin, tout Maison Château-Rouge, quand même, toute l'équipe travaille à faire en sorte que ce lieu puisse vivre. Et on est 5 personnes qui décidons un peu de la programmation.
Donc vous travaillez à plein temps sur cette programmation ?
On est à plein temps, sur tout, à chaque fois. Donc c'est des journées de 24 heures. Mais oui, on est à plein temps sur la programmation. On a comment ça fonctionne. On a débuté d'abord avec un premier projet qui a eu lieu, qui était déjà même, on avait fait le lancement d'une collaboration avec Jordan qui avait eu lieu dans le bâtiment. On a ensuite une exposition durant la Paris Design Week. Donc on essaye vraiment de se caler en fonction des dates du calendrier parisien, donc les temps forts et les événements.
La Fashion Week, par exemple.
Exactement, c'est ça, tout à fait.
Paris by Night,
on n'a pas fait. Pendant les nuits blanches, non, on n'a pas fait les nuits blanches, mais en tout cas, on a eu la Paris Design Week. C'était important pour nous de prendre la parole durant cet événement en proposant une exposition qui présentait des designers à la fois issus de la périphérie, ou sinon de banlieue parisienne, qui présentait en fait un design qui était différent de ce qu'on a l'habitude de voir durant les design week, et surtout rendre ce design accessible. C'était un point qui était hyper important pour nous, pour que n'importe quelle personne qui vienne à cette exposition ne se sente pas rejetée, parce qu'il faut aller lire le cartel, on comprend pas forcément, donc on a mis à la fois des cartels et des images qui expliquaient tout de suite quelle était la référence de l'objet.
D'accord.
Donc ça a quelque chose qui a très bien fonctionné. Ensuite, on a lu en ce moment une exposition de deux designers, une designer kazakh et un designer italiens qui ont fait un projet qui s'appelle Cross Cultural Workshop, réalisé au Kazakhstan avec des selles de cheval. Donc là, c'est totalement
génial.
Différent, mais très d'actualité aussi aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui parle du nomadisme et de comment aujourd'hui, dans une culture nomade, le cheval en fait a une place centrale dans la vie de la communauté. Alors qu'aujourd'hui, nous, on roule avec nos voitures et on a des problèmes d'essence.
Mais le cheval est peut-être la solution, voilà.
Exactement. Donc voilà, on a plein de sujets comme ça. Et l'idée, vraiment, le cœur du projet, c'est de raconter des histoires singulières qui aujourd'hui en fait participent à la création d'un récit commun, étant donné qu'on est dans le 18e arrondissement et qui est un arrondissement et un quartier d'immigration, donc qui a connu beaucoup de vagues d'immigration et qui par couche en fait viennent raconter une nouvelle histoire. Et en fait on a ce socle commun qu'on aimerait raconter à travers le lieu.
Et ce vivre ensemble aussi.
Exactement,
qui est très important. Alors Emmanuel Lallemand, vous êtes ethnologue et vous connaissez particulièrement bien ce quartier. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de votre point de vue l'histoire du quartier, et puis après vous allez nous dire ce que vous avez vu puisque vous avez visité cette réhabilitation, enfin vous avez été voir sur place.
Alors oui, effectivement, moi je suis ethnologue de la ville, ethnologue urbaine. Et pour qui s'intéresse à la ville en tant qu'ethnologue, le quartier de Barbès et les magasins Tati, c'était un lieu absolument formidable à investiguer. Moi je l'ai fait depuis la fin des années 90, j'y ai consacré ma thèse de doctorat à l'époque. Et mon idée, c'était vraiment de rendre compte des dynamiques sociales à l'œuvre, des dynamiques culturelles de ce quartier, qui avait quand même pour particularité on était vraiment dans un exemple typique de comment le commerce fait la ville. Comment le commerce fait quartier, avec les magasins Tati, hein, qui ont été donc fondés à la fin des années 40, 48-49, par une famille d'origine immigrée, qui a complètement transformé le quartier, hein, parce qu'il faut s'imaginer comment était le quartier auparavant. On disait que c'était un quartier un peu interlope, avec des hôtels qui ne permettaient pas, effectivement, de, voilà, qui étaient un petit peu borgne, comme on disait, une vie, on va dire, nocturne un peu dangereuse. Et puis là, l'introduction d'un commerce extrêmement populaire à une époque extrêmement importante qui était l'après-guerre, hein, on était vraiment les Trente Glorieuses, ce besoin de consommation, hein, et ce besoin aussi de trouver autre chose que le seul modèle de la petite boutique qui existait juste alors. Parce qu'effectivement, auparavant, les gens devaient toquer pratiquement à l'entrée d'une boutique pour dire « est-ce que je peux rentrer ?» Et puis là, on a des magasins qui s'ouvrent sur l'espace public, des bas prix, une accumulation de marchandises qui répond à ce besoin de consommation des classes populaires après-guerre. Et on a cette formidable aventure de la famille Waki qui, on pourrait dire, presque invente ce commerce de discount qui ensuite a été énormément, enfin, a été très très populaire. Et moi, je me suis intéressée à ça en tant qu'effectivement, ce type de commerce fait le quartier. Tati a été vraiment, on disait, c'était la locomotive de Barbès.
Et ça a eu une résonance dans toute la France. Hein.
Et absolument. Et ça a fait aussi Paris. Je pense que Tati et ce quartier de Barbès, pour moi, c'est typiquement parisien. Mmh. Ce n'est pas quelque chose de périphérique pour moi.
Bien sûr.
Au contraire, ça produit une centralité dans Paris, mais ça produit aussi ce qu'est Paris. À la fois de l'histoire de son peuplement, de sa population, avec toutes les vagues migratoires qui étaient internes puis externes. Et puis aussi, comment ça fait Paris, parce qu'effectivement, on le voit là sur la photo, c'est un bâtiment haussmannien. Enfin, il y avait quand même ce côté très patrimonial qu'on ressent encore actuellement.
Un bâtiment magnifique, au passage.
Et donc, on est vraiment dans quelque chose qui construit à la fois le quartier, mais qui est complètement ancré, je dirais, dans l'histoire parisienne. Et je dirais au-delà, et là, c'est un petit peu mon travail d'ethnologue, de dire aussi que ça représente aussi ce que ça veut dire une expérience urbaine.
C'est-à-dire
cette densité de population absolument extraordinaire de ce quartier. Oui. On est vraiment dans la ville, dans ce qu'elle a de effectivement dense, qui accueille les différences. Moi, j'ai travaillé sur cette idée que certes, c'est un quartier qui fait que beaucoup de gens se mélangent, qu'il y a beaucoup de frottements de population, mais finalement des types d'ajustements entre des gens extrêmement différents. Et tout ça se fait par ce mélange qui est celui du quartier, par le fait que les commerces le permettent. Et vraiment, on était, en tout cas, à la fin des années 90, dans le début des années 2000, on était vraiment dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'essai un petit peu comme ça, un peu informel. Qu'est-ce que ce serait une société multiculturelle qui ne fonctionne pas forcément dans le résidentiel, mais qui là, dans l'espace ouvert des commerces et du quartier, avait une modalité d'existence possible
et là,
à ce
fonctionne.
Moment-là. Et là, il y a beaucoup, il y a du conflit, mais il y a aussi de l'ajustement. Et puis, il y a cette idée qu'effectivement, on est dans ce quartier qui permet peut-être de prendre place là où ailleurs on ne peut pas forcément prendre place. Un lieu d'accueil traditionnel, historique de gens venus d'ailleurs. Et on est dans un quartier dont je pense que, à la fois, il a une très forte identité locale, mais à la fois, finalement, et c'est ça qui est très ouvert et très intéressant, qui peut se dire d'ici plus qu'un autre ? Et ça, c'est quelque chose de très fort dans le lieu Barbès. Finalement, on est tous un jour plus ou moins venus d'ailleurs.
Et donc, on est tous égaux.
Et à ce titre, ça produit, alors, peut-être pas une réelle égalité sociale, hein, les rapports sociaux peuvent être effectivement très inégalitaires, mais en tout cas, une forme de traitement. D'équivalence, d'avoir une place en tant que vendeur, en tant que client, en tant que simple flâneur. On est vraiment dans ce qui constitue la ville comme un régime où on se frotte à la différence.
Alors, vous avez visité ces magasins, vous avez rendu visite à Youssouf sur place. Qu'est-ce que vous avez vu? Quel est votre ressenti? Comment vous avez vu justement cet urbanisme transitoire?
J'ai eu la chance de visiter le lieu il y a quelques jours et c'était vraiment très intéressant pour moi parce qu'évidemment, le lieu, comme vous le dites en urbanisme transitoire, il est curé. Il est curé, mais il fait l'objet d'une curation par ailleurs.
Donc, curé, c'est qu'on garde juste les murs, hein, les murs porteurs.
Voilà,
c'est ça,
donc effectivement, on n'est plus du tout dans l'univers marchand qu'il a été. On n'est plus dans l'accumulation de marchandises qui était l'emblème et qui était les caractéristiques des magasins Tati avec des bacs dans lesquels il y avait des amoncellements de marchandises, de vêtements, mais pas seulement. Enfin voilà.
Ah, c'était génial, hein, moi, pour
donc,
y avoir été.
On était vraiment dans le lieu, on va dire, de l'abondance qui est très caractéristique du commerce populaire. Et là, on est dans un lieu qui est curé, donc qui est vide de cette abondance du commerce, mais qui, du coup, me fait dire que ça fait ressortir tous ces éléments architecturaux qui étaient présents, ces très beaux escaliers, ces très beaux espaces. Et je dirais aussi que je me suis sentie dans la ville. C'est-à-dire que, étant à l'intérieur de ce bâtiment, j'ai senti très fortement la ville vibrer aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que cette ouverture par rapport au quartier, elle me semble encore présente, elle vibre encore dans le lieu. Mmh. Et ça me paraît important d'ailleurs, parce que ça a toujours été un lieu finalement assez ouvert sur le quartier, dans lequel les gens aller et venir. Et je pense que cette idée de l'idée d'un seuil qui n'est pas véritablement un seuil, mais qui est plutôt une continuité entre l'intérieur et l'extérieur.
Un moyen de connexion au final.
Voilà, elle est encore présente et je pense qu'effectivement ce vide produit l'introduction de la ville à l'intérieur du bâti, je trouve. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir.
Et alors, l'urbanisme transitoire, plus généralement, bon là pour le 18e arrondissement, mais plus généralement, qu'est-ce que ça apporte à un quartier ? Qu'est-ce que ça a comme effet sur ses habitants ?
Alors là, c'est vrai que c'est une thématique plus large que celle de Barbès et des magasins Tati, mais que l'on observe en tant qu'ethnologue de la ville dans tous les projets de transformation, de rénovation. Et c'est vrai que toute cette question de savoir que faire des lieux, on parle beaucoup de temps court là, on a parlé de quelque chose qui est transitoire, qui est temporaire, mais qui s'inscrit dans une histoire de la ville beaucoup plus longue et qui va s'inscrire dans une histoire à venir beaucoup plus longue. Donc on voit qu'on est souvent dans un entrechoquement de temporalité actuellement. Il faut faire vite pour des choses qui ont existé bien avant nous et qui existeront bien après nous. Et là, il y a des moments comme ça qui sont comme des kairos, comme on dit. Hein. C'est des moments à prendre, c'est des moments où il faut absolument s'emparer des choses et de voir qu'effectivement, ça réanime les choses qui sont pas mortes, mais à demi mortes ou endormies. Ça vient les réactiver, ça vient leur donner aussi un nouveau visage souvent. Ça vient aussi sans doute pouvoir permettre cette appropriation des habitants au fur et à mesure, alors que la brutalité voudrait que, ben voilà, du jour au lendemain, les choses changent. Là, on est plus effectivement dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'appropriation. Après, c'est vrai que c'est l'urbanisme transitoire est beaucoup étudié par les sociologues
et
les géographes
de la ville.
Et encore
plus depuis, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais depuis les confinements, on a cette envie de la population en ville, parce qu'en ville, il y avait beaucoup de personnes seules qui ont envie de se retrouver, d'être ensemble. Et c'est vrai que ce genre d'endroit permet ça, de se retrouver, de se réunir.
Voilà, alors ça, c'est même au-delà de l'urbanisme transitoire, c'est cette grande question depuis le confinement, qui est: qu'est-ce que ça veut dire encore de pouvoir se rassembler en ville? Qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir encore être ensemble en ville, dans des lieux spécifiques auxquels ce rassemblement donne sens? C'est pas les lieux en eux-mêmes, c'est qu'est-ce qu'on y fait qui peut donner sens? Qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir y avoir des activités communes, de pouvoir s'y frotter à l'autre, c'est-à-dire de ne plus être uniquement dans l'entre-soi de son espace du foyer résidentiel, mais d'être justement un petit peu encore cet homme et cette femme public qui se permet et qui ose aller à la rencontre un peu de l'autre. Alors sur l'urbanisme transitoire, il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement, que ce soit en sociologie urbaine, en géographie, sur cette idée qu'effectivement c'est une des modalités de faire la ville actuellement et de la faire selon ce régime temporel particulier qui est effectivement de faire des choses qui sont par définition temporaires mais qui se doivent d'avoir un impact sur la durée. Et c'est ça qui est le plus dur dans notre époque, je pense. Et là, c'est aussi l'ethnologue qui parle, c'est comment se projeter dans un monde dont la définition, c'est l'incertitude.
Bien sûr. Et c'est vrai que ça concerne tout le monde. Peut-être un petit mot, justement, sur les confinements, parce que ça a un peu changé beaucoup de choses en ville. Est-ce que ça a eu un impact sur ce projet, justement, les confinements? Marion, peut-être, et puis après Laurent et Youssouf.
Alors, de manière générale, de toute façon, je pense que la manière de faire les projets, elle a été repensée aussi, parce que les projets sont faits pour répondre aux besoins et aux attentes des gens. Donc, si les attentes effectivement évoluent par rapport à la question de la mixité des usages, par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça permet aux gens de se rencontrer, de se donner les moyens de mutualiser en fait des choses, les moyens de créer des rencontres. Et c'est pour ça qu'un projet comme Tati, par exemple, il est assez intéressant.
L'idée de ce projet, elle est née avant la crise sanitaire, pendant ou après?
Le concours, il était, enfin l'appel d'offres, il était en 2021, donc on était.
Donc c'était après, en fait, c'était à la suite. On peut dire que c'est un peu.
Après le contexte, on va dire de la crise sanitaire, il était là quand même en 2021.
Bien sûr. Youssouf et Laurent, peut-être une petite réaction par rapport aux mots forts d'Emmanuel.
Oui, c'est vrai. Enfin, l'urbanisme transitoire, on en parle plus. Et en fait, c'est un nouvel acteur en fait dans cette chaîne immobilière qui avait pas avant et qui est vraiment importante pour les propriétaires de ces bâtiments, pour le quartier et aussi pour tout ce qui est mairie, parce qu'on parle beaucoup aussi avec les mairies de quartier, mais aussi avec la mairie centrale sur ces projets-là.
Parce que la mairie doit aussi participer, c'est ça ? Vous échangez avec elle, elle est partie prenante en tout cas. Ouais. Et c'est vrai, vous l'avez dit, hein, maintenant, c'est un acteur en fait, l'urbanisme transitoire. Oui. C'est devenu en tout cas un acteur. Youssouf, peut-être aussi une petite réaction par rapport à ce quartier, à ce que disait Emmanuel.
Sur le quartier, c'est vrai que nous, on le voit par rapport aux différentes populations et les personnes qu'on accueille, où en fait, on a des profils qui sont très variés, très différents. Et chacun a un besoin qui est différent et qui est hyper intéressant, et nous on prend vraiment tout ça en compte, soit pour des demandes particulières qui sont, parce qu'on a une médiathèque, donc une bibliothèque dans le lieu, on a un espace radio, on a une
radio, c'est quoi, c'est un studio,
c'est pas un studio, c'est une table ronde, un peu comme une table, ouais, on a une table ronde qui est centrale et qui est l'élément central donc du lieu, où on a à la fois des associations du quartier, on a des jeunes qui sont issus des collèges dans les alentours qui peuvent venir enregistrer, soit après récupérer une clé USB, ça peut être sous forme de podcast, ça peut être aussi sous forme de conférence où il y a du public qui est présent pour écouter.
Et ça marche bien chez les jeunes ?
Et ça marche très bien chez les jeunes, et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est hyper, hyper fort. Par exemple, dernièrement, on a des élèves du collège Aimé Césaire qui, après avoir fait une sortie au centre Pompidou autour de la bande dessinée, sont venus pour faire un débrief de ce qu'ils ont vu durant cette exposition, et aussi de savoir, de faire un peu comme un débat autour de la bande dessinée et le manga, qu'est-ce qui est le mieux.
C'est génial.
Et c'est assez incroyable aussi pour eux de parler dans des conditions professionnelles, parce que ça aussi, enfin pour eux c'est hyper valorisant et c'est une très belle expérience, et je pense qu'ils s'en souviendront toujours, et si ça peut débloquer quelque chose ou créer aussi des vocations, nous on serait super heureux d'avoir en tout cas amener une petite étincelle qui a permis ça, et puis en fait ça, on s'aperçoit que c'est un format qui marche très bien. On a eu aussi pas mal de conférences, on parlait d'architecture, on parlait des villes de demain, de banlieue parisienne, de la qu'est-ce que c'est que produire et de créer sur le continent africain. Donc voilà, à chaque fois ce sont des sujets qui sont très variés, très différents, mais qui répondent en fait à...
Et ça, vous répondez à une demande. Comment vous l'anticipez, cette demande ?
On l'anticipe pas. Non, on n'anticipe pas vraiment. C'est que les gens viennent nous voir et nous proposent. Et lorsque ça fait écho...
Donc, ils viennent directement à vous, voir l'équipe. Et puis, ils vous en parlent.
Les deux dernières demandes qu'on a eues, c'était une prof des arts déco qui est venue nous voir. Parce qu'elle... En fait, ils proposent des programmes dans l'école. Et elle aimerait faire un programme hors les murs. Et avec une quinzaine d'étudiants, et là donc ils ont commencé à travailler en groupe sur des séries de workshops et des séries de conférences, un cycle de conférences et de workshops qui auront lieu dans l'espace. Et moi je trouve ça génial en fait de pouvoir avoir un bout des arts déco à Tati sous forme de cycle, et de l'autre côté on a un flâneur, on va dire, je vais reprendre les mots d'Emmanuel, qui justement est venu nous voir en nous demandant si on avait des livres d'histoire, et en posant un peu plus de questions, il cherchait des livres sur l'histoire du peuple arabe. Et c'était hyper intéressant de voir ça, parce que je pense que je ne sais pas s'il aurait osé entrer dans n'importe quel lieu culturel pour demander ça, mais il s'est senti suffisamment à l'aise pour nous le demander.
Il s'est senti chez lui, en fait.
Exactement. Et donc, de là, une discussion est née, en essayant de creuser, de comprendre quels étaient les auteurs, pour ensuite, après, aller chercher justement ces ouvrages, pour les mettre dans la bibliothèque, parce qu'on s'est dit qu'il y avait un besoin et une soif d'information et de connaissances sur ces sujets. Et hier, j'en parlais tout à l'heure, on a eu une ancienne employée de chez Tati qui a travaillé pendant 30 ans chez Tati et qui est venue et qui nous racontait un peu dans chaque espace, qui se remémorait chaque emplacement, les caisses, comment, parce qu'en plus à l'époque elle travaillait avec les fiches avant l'arrivée du code barre. Et donc, moi par exemple, typiquement, moi j'ai toujours connu le code barre, donc je savais même
vous
pas.
Vous n'étiez pas né.
Non, je savais pas. Donc il y avait tout ça et c'est des moments d'émotion comme ça qui sont hyper forts. Et ensuite elle nous a expliqué qu'elle avait un groupe d'une dizaine d'anciens employés avec qui elle était tout le temps en contact. Et là donc on aimerait bien les accueillir et leur permettre de pouvoir aussi
bien sûr
raconter ça à un plus grand nombre.
C'est incroyable la vie d'un lieu. Quand vous entendez ça, Marion, qu'est-ce que ça vous procure? Vous êtes fière d'avoir pu faire, enfin d'avoir rendu ça possible?
Enfin en fait c'est que comme on disait, ce lieu il a vraiment une histoire importante et donc c'était important de pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre et donc là on a la possibilité de le faire parce qu'effectivement le temps du projet le permet et donc je trouve ça vraiment
et c'est incroyable,
vraiment formidable ce qu'on peut enfin recevoir aussi de la part des gens qui viennent visiter ce lieu, ce qui les histoires, chacun a son histoire quoi, c'est ce qu'on se disait tous avant cette émission, c'est chacun a son histoire personnelle.
Oui, chacun a son histoire et c'est incroyable de voir que les générations se rencontrent. Hein. Là, ce petit jeune et puis cette dame qui est plus âgée, qui a connu les fiches. C'est incroyable de voir qu'ils sont au même endroit et qu'ils racontent chacun une histoire différente, vous l'avez dit.
Oui, ça permet vraiment le dialogue entre le tissu local, les gens et le projet.
Et ce que je trouve aussi très fort, c'est qu'il y a toujours cette notion de quel est l'héritage du lieu. Qu'est-ce que le présent et que va être le futur? Et finalement, ces générations, en fait, elles se croisent et le lien, il se fait. Donc, c'est encore plus fort que juste un immeuble. C'est aussi ces générations et ce passé, ce présent, ce futur, même en tant qu'humain, qui se rencontrent et qui échangent. Et ça, c'est hyper fort.
Le passé, présent, futur. Et c'est ça, l'urbanisme transitoire. Laurent, est-ce que c'est un peu une pause dans le temps, au final, où tout le monde prend le temps de se retrouver?
Pas trop une pause dans le temps, parce qu'on est
parce que vous vous activez, mais en tout cas pour les visiteurs.
Des temporalités un peu courtes. Oui, enfin, et on le voit là, par rapport à ce que disait Youssouf, c'est que c'est là où quand on fait ses choix d'acteurs pour ces occupations temporaires, on voit que là, Youssouf, c'était vraiment la bonne personne.
Ah bah oui.
Parce que il a amené, enfin, par rapport à l'exposition, par exemple, de design, il l'a amené dans ce quartier, dans ce bâtiment, enfin, et on arrive à mixer tout ça d'un coup. C'est, enfin, moi, je trouve ça fou, quoi.
Emmanuel, vous vouliez rebondir?
Oui, en fait, pour les magasins Tati et Barbès en général, ont toujours eu un pouvoir évocateur, et c'était des lieux qui ont toujours été très articulés au domaine artistique et à la culture. Hein, il y a eu beaucoup de polars qui ont été faits à Barbès. Il y a eu des musiques, des chansons. Il y a eu quand même des peintres. Julien Schnabel qui a fait la toile en Vichy rouge sur ses peintures. Il y a des grands photographes maliens qui ont travaillé sur Tati et sur Barbès. Ce lien-là a toujours existé. Ce pouvoir évocateur, on dit vraiment que c'est un lieu qui a une vraie vertu évocatrice qui a dépassé toujours celle du commerce pour aller vers ce que c'est que la ville. Et donc, on est dans quelque chose qui est aussi une sorte de continuité parce que Barbès, il y a toujours cette espèce de pression sur Barbès où dès qu'il s'y passait quelque chose, on disait « Ah, c'est terrible, Barbès va changer ». Tout en dénonçant toujours ce qu'était le Barbès, et il faut que ça change. Donc on est dans ce type de quartier parisien qui ont toujours été pris entre deux feux, sans qu'on demande vraiment l'avis des gens qui y habitaient et qui le fréquentaient, entre eux, il faut que ça change, et dès qu'on faisait quelque chose, ça ne doit pas bouger. Et là, je trouve que il se passe quelque chose qui va sans doute aussi délier aussi les paroles des gens de Barbès aussi, parce qu'il y a des gens qui habitent, il y a des gens pour qui il y a une vraie appropriation.
En tout cas, grâce à vous trois, enfin grâce aussi aux entreprises que vous représentez, c'est vrai que c'est une magnifique image qui donne des frissons, en tout cas, de ce beau quartier. Peut-être un petit point juste sur les normes, la mise aux normes, parce qu'il faut quand même le préciser, l'urbanisme transitoire, il y a des règles à respecter, et pas des moindres, Marion. Justement, alors on l'a dit, il y a un curage qui s'opère, donc c'est-à-dire qu'on retire tout, on casse les murs pas porteurs en fait.
Alors
presque tout.
Ça dépend des endroits. Effectivement, nous l'idée c'est de donner un bâtiment aux intervenants derrière et aux gens qui vont l'exploiter qui soit exploitable justement.
Bien sûr.
Après toutes les travaux de mise aux normes quels qu'ils soient finalement après c'est aussi Forest qui et Maison Château Rouge qui les ont réalisés et donc je pense qu'ils en parleront mieux que moi mais
oui c'est, enfin en fait on en urbanisme transitoire on reçoit plusieurs types de bâtiments donc il y a des bâtiments curés comme petits il y a des bâtiments qui restent en état d'usage enfin
auxquels on ne touche absolument pas
à rien et c'est vrai que nous quand on arrive dans un bâtiment qui est complètement curé c'est vache enfin il faut trouver le bon projet parce que
bien sûr
il y a pas de chauffage il y a pas d'électricité il y a pas de sanitaire donc on a quand même des on respecte beaucoup de normes on est suivi par des cabinets de contrôle et on pour encadrer ces travaux là et
mais c'est important de le préciser parce que ça fait partie aussi de votre travail et c'est une grosse part et c'est quand même important de le mentionner hein, parce que d'un point de vue extérieur on n'imagine pas que c'est autant de travail
et
d'investissement
et d'investissement financier. C'est pour ça qu'aussi par exemple sur le Tati on a une partie du Tati qui est allouée à la location événementielle ou pour le cinéma. Par exemple, on a accueilli le défilé de vêtements dans l'autre partie du Tati.
D'accord.
Dans la Fashion Week. Donc, ces éléments-là nous permettent de financer aussi et d'accueillir ces projets.
Oui, parce que c'est un coût assez élevé.
Oui. Après, Immobel nous met à disposition le bâtiment gracieusement. Et nous, derrière, on s'occupe de pouvoir accueillir des acteurs comme Youssouf.
Du coup, comment se fait l'équilibre, en fait, des privatisations versus les événements culturels comment vous y prenez?
Alors, c'est complètement détaché.
C'est
vraiment rattaché à Forest.
D'accord. D'accord. Donc, c'est uniquement vous qui...
Oui, parce qu'après, au sein de Forest, on a des commerciaux...
Qui s'occupent de ça.
Oui, qui s'occupent de ça.
Il y a une équipe donc dédiée à ça. L'émission touche bientôt à sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez peut-être rajouter, mettre en avant, Marion, peut-être, je voyais noter tout à l'heure sur votre fiche.
Oui, non, mais je prenais des notes de ce qu'il disait parce que, enfin, j'ai bien aimé par exemple quand Emmanuel nous parlait du fait que on soit sur quelque chose qui est transitoire ou temporaire, tout dépend de la manière dont, enfin, le mot qu'on emploie, dans le sens où effectivement l'intervention sur site a quelque chose de fini, de limité dans le temps. En revanche, les effets, et on le voit par rapport aux histoires que nous raconte, Youssouf et qu'on vit au quotidien sur le lieu, ils se ressentent de manière durable. Et nous, c'est vrai que je trouve que c'est des lieux vraiment qui sont tellement avec tellement de potentiel de créativité, enfin des champs d'expérimentation importants qui permettent de tester plein de choses et c'est vraiment intéressant pour la réflexion qu'on peut avoir aussi sur les projets de projection, de se dire qu'est-ce qu'on va faire enfin quels usages on imagine pour les lieux et c'est fabriquer la ville tous ensemble en fait, c'est ouvrir à tous le fait de fabriquer la ville.
Est-ce que, alors là, pour finir un petit peu, voir le côté, l'aspect humain, est-ce que pour l'instant, ça répond à vos attentes? Alors en termes de visiteurs, en termes de personnes attendues, est-ce que tout cela répond à vos attentes, aux attentes de chacun?
Oui, voire même plus, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de presse.
Oui.
Qui est assez très intéressante en plus. Ouais.
Oui.
Oui, on est vraiment très très heureux. On est content et ça
va au-delà de nos espérances. Plus que ce que vous avez imaginé.
Bien sûr,
hein.
Oui, bien sûr. Et c'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas qu'il n'y avait pas d'attente ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui a été fait vraiment de la façon la plus sincère possible.
Oui.
En se disant, de toute façon, il faut essayer, il faut faire quelque chose. Et après, peu importe quels seront les résultats, en tout cas, on aura essayé de faire quelque chose qui a du sens. Et aujourd'hui, ouais, les gens nous le rendent par rapport au retour qu'on a et aux visiteurs. Et puis même les personnes qui exposent, où là, dernièrement, donc avec les designers kazakhs, par exemple, où il y a un ami de la designer qui était jamais venu à Paris, qui lui a expliqué ce que ça représentait d'être à Tati. Et c'est au moment où il lui a expliqué ce que représentait ce bâtiment et pourquoi ça avait du sens qu'elle soit là, qu'elle a réalisé en fait à quel point c'était puissant, parce qu'elle aurait pu très bien exposer dans n'importe quel musée, mais le fait de le faire ici, c'était encore plus fort pour elle symboliquement.
Ça donnait du sens.
C'est ça, exactement, ça donnait du sens, et donc pour ça, on est très heureux de pouvoir faire ça.
En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est la sincérité, c'est ce qui ressort de tout ça, hein, et je pense que c'est aussi pour ça que vous connaissez un tel succès, et puis cette envie de travailler ensemble. Peut-être un dernier mot pour résumer tous ensemble votre collaboration, je sais pas, sur ce beau projet.
Enfin, je pense que ça se voit aussi aujourd'hui, c'est que effectivement ça se passe très bien. Enfin, nous on est très heureux de la manière dont on travaille ensemble, très heureux aussi de voir l'attractivité de l'espace culturel. Et voilà, j'invite tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui ont l'occasion de venir à Uni pour voir ce qui s'y passe et pour y passer du temps, y parler et se rencontrer.
Emmanuel, juste avant de terminer, votre ressenti sur ce beau projet, sur ce travail qui est fait, sur les équipes.
Oui. Bah, je pense qu'on a un bel exemple. En tout cas, moi, ça m'intéresse pour qui s'intéresse à cette nouvelle fabrication de la ville, à ce que devient la ville. On a, c'est vrai, un bel exemple, je pense, de qu'est-ce que ça veut dire réinventer, hein, le programme Réinventer Paris. Et on le voit, hein, Réinventer Paris à Barbès et sur les magasins Tati, c'est absolument pas anodin. C'est pas comme Réinventer Paris ailleurs. C'est-à-dire là, on est dans quelque chose qui, effectivement, on est dans qu'est-ce que ça veut dire attribuer une valeur à un lieu, une valeur qui existait, qui avait un certain statut, une valeur qui était patrimoniale, liée au commerce, liée à ce quartier, à la population, à la sociologie de ce quartier. Et puis maintenant, à un autre type de valeur qui est celui de la ville actuellement, la valorisation des espaces, la valorisation. Et je pense qu'effectivement, on assiste à quelque chose qui, en tout cas, moi, de mon point de vue, est très intéressant pour comprendre ce que c'est que la fabrication de la ville aujourd'hui.
Des acteurs engagés, sincères. Peut-être l'adresse pour se rendre, même si on connaît tous, mais on va quand même la repréciser, c'est important, Youssouf.
Alors, c'est 2 boulevards Marguerite de Rochechouart. Ou sinon, on a le boulevard Barbès, mais...
C'est vraiment à l'angle... Ouais.
Quand on sort du métro Barbès, on tombe dessus.
Ouais, Marguerite de Rochechouart, je trouve que c'est...
Le bâtiment Signal est bien là,
exactement. Et le prochain événement, si on veut assister...
Le prochain événement, là, on travaille sur une exposition autour de 4 artistes visuels marocains. Donc, c'est de la photo et de la vidéo. Et c'est assez... ça va être très différent de ce qu'on a présenté jusqu'à présent, et je pense que ça va s'appeler La Vague, donc Mouja en arabe.
Et je veux venir, donc comment je fais pour... Je dois m'inscrire.
Alors, il faut s'inscrire, donc il y a le site, il y a un site internet, sinon sur Instagram, donc il y a le lien en bio pour pouvoir s'inscrire.
Et donc sur quel compte Instagram?
Union Jeunesse Internationale.
D'accord, donc Union Jeunesse Internationale.
Exactement. Et ensuite, donc l'exposition va débuter le 1er novembre.
1er novembre.
C'est ça.
Eh bien voilà, rendez-vous le 1er novembre. Vous y serez, Youssouf ?
J'y serai, j'y suis tout le temps, donc on peut me voir là-bas, discuter.
Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous. Merci d'avoir été là et d'avoir parlé avec sincérité, puis avec votre engagement en tout cas. Merci beaucoup.
Urbanisme transitoire, quels impacts ? Une émission proposée par Immobel France.
À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.